Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
C'est vraiment une idée qui m'a traversé l'esprit. Alors avec du recul et maintenant en tant que psychiatre, c'était pas des idées suicidaires, j'avais pas envie de mourir, mais en fait j'avais envie, je pense, d'avoir un accident assez grave pour que je sois hospitalisée et que j'ai une bonne raison de pas aller en stage, quoi, de pas y retourner.
Hippocrate, l'oreille interne. Création sonore Canal+. Épisode 3. Comme un jeune chat.
À ce jour, j'ai six amis internes qui ont fait une dépression et où ont été hospitalisés.
Nathanaël.
Pour ça.
Réanimation.
Et je trouve qu'en 5 semestres, c'est déjà pas anodin quand même. Donc on y est tous exposés.
Il y a un semestre où on s'est retrouvés le dernier mois à 3 sur la liste de garde. Donc j'étais de garde une nuit sur 3 dans une énorme maternité.
Charlotte.
Je dormais du coup vraiment pas beaucoup. Je faisais une nuit blanche, une nuit sur 3. Pendant un mois, c'était vraiment un peu dur.
Gynécologie obstétrique.
À la fin, du coup, je pleurais toute la fin de garde. Juste de fatigue. Mais c'était la fin du stage, donc ça s'est arrêté très vite. Et après, ça allait très bien. J'ai pas eu l'impression d'avoir un burn-out. Mais là, je pense qu'effectivement, ça avait continué peut-être.
Là maintenant, il y a pas mal de médecins avec Marine l'Orphelin, Sazi Médecin, Vicky Rabin et tout, pas mal d'auteurs de.
Élodie.
De blogueurs d'internes.
Médecine d'urgence.
Qui nous ont un peu donné une voix sur les réseaux sociaux ou même politiquement parlant. Et où, très clairement, t'as le taux de suicide en médecine qui est quand même très important. T'en entends beaucoup parler, surtout quand toi-même t'es jeune médecin. Le taux de dépression, les études, t'as plein de tests, bah du coup des tests notamment sur le mal-être étudiant en médecine, sur la précarité, sur les burn-out, sur la maltraitance, sur plein de trucs dans le milieu médical.
Donc on y est tous exposés. Si ça survient, ce sera dur parce que je pense que j'aurais tendance à me dire que je vais quand même pas m'arrêter de travailler, quoi. Je pense que la chose qui permet de m'en empêcher, c'est que même s'il y a plein de choses difficiles dans ce métier, je pense vivre vraiment des choses exceptionnelles.
Hôpital Beaujon. Clichy.
Je jette tout ça, que je lave.
C'est bon,
ça fait.
Ils sont OK pour la
transfusion. Ah, ils sont OK pour la transfusion? Et ça va aussi, elle est OK pour la transfusion?
Ça va, elle attend que le tour à 10
minutes. Ah, excellent! On attendait juste la deux.
Ouais.
Ah oui, punaise, oh là là, mais... Voilà, je ne l'avais pas prescrit. Je n'avais pas prescrit les bons prévus pour la transfus parce que j'ai oublié et vu que les infirmiers sont confortables, je l'ai pris de moi. Il vient me montrer des tubes pour me dire gentiment que j'avais oublié. Je l'ai prescrit. Ils sont trop forts, ces infirmiers, ils sont trop forts. Oui. Ça fait des années qu'ils sont infirmiers. Moi je commence. Non, ils sont trop gentils.
Hey, je m'amuse, moi je fais
de la.
Alors c'est peut-être mon vécu comme ça, mais j'ai l'impression que globalement t'apprends comme ça en médecine. En tout cas, moi j'ai appris comme ça en médecine. Où c'est des trucs où tu sais techniquement comment faire, théoriquement tu sais comment faire, parce que tu as lu dans les bouquins, parce que si t'as de la chance, t'as vu une vidéo sur Insta qui te montrait comment on fait. Mais globalement, on dit, bon, tu l'as fait une fois. Typiquement, tu vois, à un moment donné, il y a un patient qui vient, et dis-toi, le mec, il fait 100 kilos, que du muscle, genre qui pousse à la salle, qui se dope ouvertement. Qui dit ouais, je prends la testo, du machin, du 17 000, machin, bidule chouette, en injection une fois par semaine, ça c'est le lundi, ça c'est le mardi. Genre, j'ai envers aux urgences, quoi. Et qui s'est luxé une articulation du... Donc, s'est déboîté une articulation du pouce. Et je me dis, bon, bah, il faut le remettre en place. Et sauf que c'est une articulation qui au niveau du poignet. Et donc, un peu plus profond que ce à quoi j'étais habituée. Et surtout, avec une main qui était énormissime. Mais vraiment, mes mains, c'était genre des mains de poulet, quoi, à côté. Et je me dis, bah... J'aimerais bien que l'orthopédiste, le spécialiste, me montre comment on fait. Parce que moi, cette réduction-là, je ne l'ai jamais faite. Et le gars, il avait mal. Il était un peu agressif parce qu'il avait mal. Et t'as les infirmiers et les équipes qui font « Non, mais vas-y, t'es urgentiste, fais-le, t'inquiète, c'est pareil. Tu sais comment on fait pour un doigt ? » ?»« Bah, c'est pareil, mais c'est juste un peu plus gros. » Et là, t'arrives et tu dis « Ok. » Et donc, tu y vas, tu dis « Bah, vas-y, c'est parti. » Et donc, quand le patient, il bouge son doigt, t'as le doigt qui se déboîte. Parce qu'il n'est pas encastré au bon endroit, donc tu vois là ce qui fait clac-clac quand il bouge son doigt. Et t'as les infirmiers à côté qui sont là, oh, en se disant, mon Dieu, en essayant, tu vois, de cacher un peu leur réaction, oh my God, genre. Et là, tu dis, je fais semblant jusqu'à ce que ça marche. Et donc, tu fais genre que t'es genre ultra confiant, ça va bien se passer, monsieur, vous inquiétez pas. Et donc, tu y vas, et au final, bah, t'es le seul à savoir potentiellement le faire, donc tu y vas. Tu prends ton courage à deux mains, avec mes petites mains de poulet, là, je prends mon pouce, je tire dessus, il hurle à la mort. Et je regarde, et son doigt, il fait clac-clac encore comme il faut pas. Je me dis, oh putain, ça n'a pas marché. Je me dis, bon, on va recommencer. Et là, je tire dessus, et j'y mets vraiment du mien, et là, j'entends clac. Et il me dit, je pense que c'est bon. Et là, je regarde, il bouge son pouce, il fait, ah, ça va mieux, c'est pas mal. Et là, je sors de là, je me dis, easy. Sauf que sur tout le trajet, tu te dis, oh là là, ça va être horrible. Je vais me louper, je vais appeler l'ortho, je vais prendre une patate, on va sortir avec des coca, mon Dieu. Et au final, après, tu sors de là, tu te dis, tranquille.
C'est bien 74-40 7-74-40 pour le labo de garde.
Quand je suis de garde, des fois, avec des internes qui sont plus vieux, de type, ça fait 4 ans qu'ils sont internes, tu vois. C'est horrible, hein, d'être interne pendant 4 ans, genre 5 ans. Ah, c'est chirurgien, ils sont dingues. Bref, ça fait des années qu'ils sont internes. Et donc, ils ont des bouteilles, tu vois, ils ont l'expérience, ils savent, ils sont trop forts. Ils sont vraiment super forts, ils savent plein de trucs, plein de subtilités que toi, tu connais pas et que tu sais que c'est l'expérience qui va faire que... Ils ont des réflexes que toi t'as pas, ils ont une zénitude que toi t'as pas, parce que pareil, j'imagine que plus tu vis, enfin j'en sais pas parce que c'est pas mon cas, mais j'ai l'impression que plus tu vieillis, plus t'es zen. Et donc plus les internes sont âgés, plus ils sont t'épouses quoi. Alors.
Allô ? Ouais. Ouais. Ah, la rotation, la 7.
Charlotte.
Ok, mais j'arrive alors.
Quatrième année d'internat.
À toutes.
Vous l'avez bien fait descendre là.
C'est un petit garçon, une petite fille ?
C'est
Lina. C'est
Lina.
C'est Lina.
Lina.
Lina. Ça va Lina ? C'est bon, j'ai bien dit ?
Oui.
Madame, vous me corrigez si je dis pas de mal.
Allez-y. Allez-y. Fort. Allez, c'est super.
Je m'en souviens très bien, c'est ouf.
Encore.
J'étais un peu enrhumée ce jour-là.
On voit ses petits cheveux.
En fait, effectivement, je pense que c'est de toutes les distractions de ta vie, c'est celle où j'étais le moins à l'aise. C'était tôt le matin, c'était pas installé parfaitement.
Allez, encore.
Je pensais qu'elle allait arriver toute seule et après j'ai décidé que finalement non, mais du coup il y a tout le laps de temps où je prends ma décision.
C'est super ce que vous faites. Je me rappelle d'avoir les dépôts aussi.
Et je trouve que dans ma voix aussi j'ai l'air hyper posée.
Vous pouvez encore un petit peu.
Par rapport à quel point ça va vite, dans ce que je pense. Je veux l'écho, je veux plus l'écho, je veux des spatules. Tu m'entends chuchoter, oui, non. Et en même temps, je parle à la dame, genre, allez-y, madame, continue de pousser, tout va bien. Et puis, t'as un peu le bruit du... T'entends bien que le cœur du bébé, ça va pas du tout, parce que ça fait scrunch à côté. Je pense que les gens se rendent pas compte de ce que c'est, ce bruit-là. Le bruit qu'on entend en arrière-fond, le... En fait, c'est le capteur du cœur du bébé qui capte rien, parce que le bébé, il bat hyper lentement.
Bon,
Bon, c'est super ce que vous faites, mais c'est pas assez. En fait, surtout, ça ira pas assez vite. Ok? Et on a besoin d'aller un petit peu plus vite parce que du coup, je vous ai dit, elle tolère pas très bien. Donc, je vais vous aider avec des instruments qui s'appellent des spatules. C'est comme deux grosses cuillères que je mets de chaque côté de sa tête pour lui montrer le chemin. Ok? Vous êtes bien soulagée ou pas? Vous êtes bien soulagée là?
Oui, les forceps, enfin, globalement, quand on utilise un instrument, c'est un peu redouté parce qu'on touche à leur bébé avec quelque chose d'étranger. Donc elles ont peur et aussi elles ont peur pour leur périnée à elles. Elles ont l'impression qu'on va tout éclater.
Allez, on y va. Allez, encore.
Et c'est à toi de débrouiller pour que j'ai pas l'impression que c'est une boucherie, parce que c'est pas du tout une boucherie, quoi.
On n'est pas loin. On n'est pas loin, mais ça va pas. C'est super ce que vous faites, hein.
Vous allez pour moi, mais
vous allez pour qui?
Pour les deux.
Pour les deux. Alors, je fais tout ce que je peux pour pas faire des épisodes, je suis pas du tout obligée de le faire.
Il y a une contraction là?
Je sais pas.
Là, je suis
pas. Mais je sais pas, je descends pas.
Si on arrive, alors on y va.
Je sais pas,
on prend par l'air.
Super,
allez,
je me réveillais vers genre 7h30, et genre je prends la douche, je me lave les dents, et après je vais faire mes petits comptes rendus, et à 8h30 je vais au staff après avoir bu mon café, c'est tout tranquille et tout. Donc là on a été un peu dans ma routine habituelle.
C'est là aussi que je me rends compte de la garde que j'ai passée en gardant ma tête dans ma caisse. Et aujourd'hui, j'ai une tête de garde longue. C'est les cernes, les petits yeux. Et puis j'ai toujours les joues hyper rouges quand je suis fatiguée. Voilà. Les masques.
Combien je passe d'heures à l'hôpital par semaine environ? Les semaines où j'ai pas de garde. Je suis en train de calculer.
Pour nos urgences, on fait. T'es 45 heures.
Sauf qu'en fait, souvent j'ai au moins une garde par semaine. Donc ça rajoute au moins 12 heures de travail.
Ça fait 8h30, 19h.
Voire entre 45 et le plus, c'est 70 heures.
Plus 40 heures, donc ça fait 84.
On peut multiplier par 5, ça nous fait 50 heures, ça nous fait 54h30, ça c'est pour la semaine.
Ah, c'est énorme. Je pense que ça, c'est le max qu'on puisse faire.
Tu peux faire du 60,
60-70 heures.
C'est vraiment 90?
Disons, je fais entre 50 et 85 heures par semaine, ça dépend.
90 heures, c'est l'extrême.
Moi, je faisais quand même jusqu'à 90 heures par semaine à ce moment-là.
Morgane, interne de psychiatrie et anciennement interne de gynécologie obstétrique.
C'est un peu compliqué. Et en fait, tout ça, c'était... Ça venait après plusieurs semaines où mes co-internes s'étaient un petit peu éloignés de moi. J'avais l'impression qu'on parlait de moi dans les couloirs. En fait, un petit peu comme l'interne qui s'est arrêtée en arrêt de travail juste avant moi. Finalement, j'avais commencé un petit peu à repérer que ce qui lui est arrivé à elle, c'est en train de m'arriver à moi, quoi. Il y a un moment où j'ai craqué et j'en pouvais plus du tout, quoi. Et je me suis pas mise en arrêt parce que j'aurais été vue comme... celle qui s'est arrêtée, qui n'a pas supporté. Puis tout ce qu'il disait sur moi à ce moment-là, c'est quelque chose qui serait resté. Et donc, du coup, j'ai continué. Je me suis dit que j'allais continuer jusqu'à la fin du stage. Donc à ce moment-là, je me suis dit que je ne devais pas prendre de décision sur un seul stage parce que ce serait quand même dommage que ça détermine ma vie, quoi, cette chose-là, de ne pas m'être entendue ou d'avoir eu des difficultés avec une personne. Et donc, pour le stage suivant, j'ai choisi à nouveau un stage en périphérie de la ville. Ça s'est vraiment bien passé. Sauf qu'en fait, il y avait vraiment quelque chose en moi qui était un peu éteint. Il y avait plus cette volonté de rester dans ce milieu-là. J'appréciais cet hôpital, j'appréciais l'équipe, j'appréciais la spécialité, mais il y avait quelque chose de cassé. Je pouvais pas rester en gynéco. Donc j'ai décidé quand même de faire un remords, donc un changement de spécialité. On a le droit de le faire normalement qu'une fois dans son internat avant son quatrième semestre. Donc du coup, je me suis engagée dans un remords. En plus, je me suis dit, nickel, quand j'ai passé le concours, je voulais faire soit gynéco, soit psychiatrie. Les deux me plaisaient beaucoup. La gynéco, ça n'a pas fonctionné, donc je vais aller en psychiatrie.
Tu sais que là, c'est ton choix, hein, Morgane.
Ah ouais.
Voilà, là, c'est ta patiente, là, donc du coup...
Ah ouais, mais moi, j'aime bien réfléchir. Je réfléchis peut-être trop longtemps sur les antidépresseurs.
Ah, ouais. Je te taquine avec ça parce que je sais que c'est quand même le truc où tu aimes bien,
ouais,
bien être au clair. Parce
que je me sens comme une interne. Vraiment, la psychiatrie m'a redonné ma place d'interne que j'avais pas forcément en gynéco. Je me sens comme un médecin qui travaille.
Très bien, mais écoute, parfait.
Et comme un interne en formation.
Bon, regarde, tranquille-toi. Alors, sache-le comme ça, ma grand-mère, je l'ai mis tous ses restes à 10, c'est des Roxane, sache-le, voilà.
Non, mais moi,
92 ans maintenant, et elle se porte plutôt bien.
Je mets facilement, moi, du 10, mais parce que la patiente, elle était séchée avec un quart.
Je continue à me former sur la psychiatrie, j'apprends des choses tous les jours, je pose beaucoup de questions à mes chefs, j'essaye d'aller voir des choses que j'ai jamais vues. Mais en même temps, j'ai un travail de fond que j'effectue tous les jours et pour lequel je suis payée. Donc ouais, je pense que j'ai vraiment retrouvé cette position d'interne, enfin, qui pour moi est la position qu'un interne devrait avoir.
On a du thé. Est-ce que quelqu'un veut quelque chose? Ça va?
Vodka, verre de rouge.
Regarde
un mot. Merci. Et j'ai le thé japonais, je crois.
Ben, regarde. Ah, faut que je t'amène le maté pour que tu goûtes.
Madame, vous ouvrez les yeux? Serrez-moi la main.
Merci. Elle est trop loin. Ouais.
Vous me serrez la main fort.
Ok.
Non,
elle est. Et vous n'avez rien fait, non? Pour la caméra?
Non. Mais elle est comme ça depuis qu'elle est arrivée.
Ouais, t'as un peu agité tout à l'heure.
Ouais,
elle a fait
justement, elle fait.
À tous.
Ouais.
Ça va? On va mettre un petit peu d'oxygène, d'accord?
Allez, détendez-vous.
Essayez de vous détendre un petit peu.
Pas de bronchite, on se relève juste là, comme ça. Ça va, tu t'en sors? J'en ai pas trop. Ouais. Vous avez froid, on va vous couvrir.
L'urgence et cette tension qu'il peut y avoir en réanimation, c'est quand même quelque chose qui est recherché pour ma part, parce que ça va amener à une réflexion un petit peu plus aiguë dans l'urgence et donc avoir des décisions à faire un petit peu plus rapides. Je pense que ça serait pas viable si c'était tout le temps, en permanence, au quotidien, mais de l'avoir une fois dans la journée ou deux, trois fois dans la journée, oui, c'est quand même une des caractéristiques de la réanimation et c'est ce qui, je trouve, rend l'exercice médical assez stimulant.
Je chatouille un peu les pieds, ok ?
On a au début tendance à se dire que c'est que de l'action. En fait, il est parfois nécessaire d'avoir un petit peu de réflexion en amont. La réanimation, en fait, elle implique un raisonnement éthique, même s'il n'est pas toujours explicite. En fait, il s'immisce dans beaucoup de décisions très techniques. Si on prend l'exemple effectivement d'un patient qui va faire un arrêt cardiaque parce qu'il avait fait un gros saignement dans sa tête et que le cœur n'a pas l'air de bien retrouver sa fonction de pompe du sang, on va pouvoir mettre une machine qui va jouer le rôle du cœur, qui va faire pomper le sang. Avec certaines évaluations et examens complémentaires, on va se rendre compte que le cerveau il est trop endommagé et que le patient ne va pas pouvoir se réveiller ou quoi. Et donc, c'est par exemple à ce moment-là, on peut se dire, est-ce vraiment raisonnable de devoir suppléer le cœur par une machine lourde avec des complications, alors que les séquelles neurologiques vont être très lourdes, voire peut-être même qu'il ne se réveillera jamais. Est-ce que ça ne représente pas de l'acharnement? Il y a une espèce de poids que je me suis un peu mis sur moi en me disant... Un réanimateur, effectivement, aujourd'hui, je pense, tout interne et ou médecin ensuite en réanimateur, on peut tous être, je pense, des très bons techniciens d'organes pour suppléer tous les organes possibles. À l'inverse, être médecin, ça nécessite d'être probablement un très bon technicien d'organes et à la fois de savoir, je pense, prendre en charge le patient dans sa globalité. Et donc, c'est d'où il vient, comment il évolue, dans quel environnement. Quel est son projet? Quel est le projet de la famille? Est-ce que ça s'oppose ou non? Et qu'est-ce qu'on peut lui apporter avec ses attentes et tout? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter ou pas? Voilà. Et je pense que quand cette dimension-là, elle est un peu présente au quotidien, ça s'appelle un médecin réanimateur.
Vous avez mal au ventre?
Ah oui, c'est
la tour. Depuis quand?
Non. Qui?
Depuis quand?
T'as venu?
Aujourd'hui?
Oui.
Depuis ce matin?
C'est du monde.
Service des urgences de l'hôpital Beaujon, Paris.
Comment ça pique? Comment le plomb?
D'accord. Vous avez vomi ou pas?
Non.
Non. Et les fesses, c'est normal?
Non.
Normal. Le pipi, c'est normal?
Non.
D'accord. La tête, c'est normal?
Non.
Le cœur, c'est normal?
Non.
C'est ici que ça fait mal. C'est là que ça fait mal. Vous êtes essoufflé? Vous êtes essoufflé?
Ouais,
hein?
C'est mal, oui. C'est vrai. Et de votre fou, c'est beaucoup.
Bah, dès que vous marchez beaucoup, vous êtes essoufflé, vous êtes fatigué. Bah oui, je me doute. Allongez-vous.
Bon. Ouais, il y a de la cible là-dedans.
Intellectuellement, c'est quand même hyper satisfaisant. T'arrives, ils viennent avec je sais pas ce que j'ai, ça fait 3 jours que ça dure, j'en peux plus, au secours. Et quand t'arrives avec ton chef à.
C'est là la douleur?
Cadrer le truc et à te dire bah.
Vous fait mal?
C'est ça.
C'est moi qui vous fais mal?
Non.
C'est trop cool. Tu dis bah j'ai une solution, le problème c'est ça, la solution c'est ça.
Bon, on va faire une ponction d'acide. On l'a déjà fait ou jamais? La piqûre dans le ventre? Vous l'avez déjà fait ou pas? Jamais.
C'est trop cool de pouvoir faire ça pour des gens. Juste parce que intellectuellement, t'as réussi à comprendre ce qu'ils avaient et à mettre en place ce qu'il fallait pour les soulager.
D'accord. Je reviens vous voir.
Qu'est-ce qui me met en confiance? Surtout, il y a des réflexes que t'apprends à avoir. Et ça, ça donne pas mal confiance. Et sinon, c'est le numéro du chef. Qui est genre dans la poche.
Oh, j'ai entraîné. Là, c'est pas mon matériel, je connais pas du tout ce truc. Ça, c'est pour les gars doucement. Ça, c'est pour qui?
Et les grosses.
Il y a une rupture. Il y a une rupture en ce moment des aiguilles vertes.
Ah c'est pour ça, mais je vais pas prendre une pompeuse quoi. Parce qu'enfin pour faire ma site, il m'en faut une bien longue, tu sais. Je suis obligée de prendre une IM verte.
Non, tu peux prendre un KT vert. Vous faites pas ça, vous?
Il y a un peu, tu vois, en médecine, c'est un peu une famille dans un sens. Où t'as genre. Le vieux papy, vraiment un peu vieux con, désagréable, misogyne, raciste, tout ce que tu veux, qui croit tout connaître mieux que tout le monde. T'as le cousin hyper intelligent, mais tout timide, qui fait jamais parler de lui. Et dès qu'il ouvre la bouche, tu te dis, mais c'est une encyclopédie ce mec, c'est hyper impressionnant et hyper humble. Et t'as toute une batterie de grands frères ou de grandes sœurs qui, quand tu t'es un peu bambi, t'as un peu du mal sur certains trucs, bah, ils sont là pour t'aider, pour te dire bah, fais plutôt ça ou fais plutôt ça. Et t'as les grands frères qui sont un peu violents, tu vois, qui décident, ou les grandes sœurs qui décident que l'apprentissage, c'est l'école de la vie, tu vois. Et puis du coup, tu lances un peu dans des situations un peu stressantes.
Il y a un autre verre.
On va planter une aiguille dans le monsieur, dans son ventre.
Bah oui, c'est ça qui
pour récupérer le liquide. Mais en fait, elle me paraît pas très profonde.
J'ai trouvé les seringues de gavage là, mais je trouve pas d'IM. Toi, tu l'as déjà fait?
Quand t'arrives dans un nouveau service, tout le monde a des habitudes différentes. Et comme nous, on change de service tous les 6 mois, c'est hyper fatigant. Et tu sais pas trop comment ils font, donc ouais. C'est le to-go des internes. Dans n'importe quel service, l'infirmière, elle te dit. Et qu'est-ce que je fais ça? Et tu réponds, tu fais quoi d'habitude? Et elle te dit, et tu lui dis de faire pareil.
Par le robinet, tu peux tirer pour faire en envoyer en bactérie ou machin, là.
D'accord, mais
il faut juste que tu coupes ça. Et okay. Tu le mets au-dessus d'un pot à urine. Tu vois ce que je veux dire?
Que je coupe quoi?
Regarde.
Tout le monde se soutient un peu et tu t'appuies un peu sur tout le monde pour grandir et construire ta personnalité, construire ton mode d'exercice. Je me suis jamais sentie inférieure, tu vois. Mais des fois, tu te dis, bon, bah, il y a un loupé, quoi. Et souvent, bah, il est rattrapé par ton collègue et c'est comme ça que tu te rends compte qu'il y a un loupé.
On a besoin de ça. Il faut qu'on fasse notre chariot comme.
Moi, j'estime qu'il faut jamais être à l'aise sur une situation médicale, en tout cas pour garder un peu de recul et se dire. Peut-être que ça peut atteindre mes limites à tout moment.
J'ai pas de dame, moi j'ai que des messieurs.
Quand on se sent à l'aise, c'est probablement une bonne chose, mais on peut basculer facilement dans l'excès. Et donc c'est plutôt. Moi je le vois comme une sécurité de ne pas se sentir trop à l'aise, on va dire.
Les machins, on n'en a pas besoin de temps, mais c'est pas grave. Décompresse. Beaucoup de compresse. Chaque.
Tu prends vite le pli en fait. De toute façon, t'en fais beaucoup. Des gardes et des bourdes. mais des gardes, tu fais une nouvelle bourde à chaque garde. Je fais encore des bourdes. Hein. Beaucoup moins souvent, heureusement, mais ça m'arrive encore. Faut juste. Tant que la bourde, elle a mis personne en danger, c'est pas très grave en fait. Tu t'apprends et la prochaine fois, tu le fais plus.
T'as vu avec la senior?
Oui, elle m'a dit expo.
Expo, d'accord. Et bah, vas-y.
En général, pour les gros gestes, tu le fais en quatre mains, c'est-à-dire que. Le chef s'habille avec toi quand c'est des gestes en stérile, genre les ponctions lombaires, les ponctions d'articulation ou les trucs comme ça. Et vous le faites à deux. Il te montre, il te guide, il t'aide à prendre tes repères, etc. Ça, c'est la chose la plus confort. Soit il jette dans le grand bain parce qu'il considère que c'est un petit truc et que tu peux pas te louper. Alors oui, il y a des trucs où il considère que tu peux pas te louper. Alors que si, tu peux te louper, mais il considère que tu peux pas te louper.
Hop. Est-ce qu'on peut enlever la ceinture? On enlève la ceinture? S'il vous plaît. Vous respirez fort.
Être interne, ce n'est qu'un nouveau début.
Attention, on y va. Hein.
Parce que ça implique de nouveaux rôles. On est, on est comme un jeune chat là qui a un peu du mal à marcher, qui galère.
Ça va?
C'était le troisième épisode d'Hippocrate, l'oreille interne. Une création sonore Canal+. Dans le prochain épisode, nos quatre jeunes médecins dévoileront les difficultés que rencontre l'humain sous la blouse. Quelles histoires les poursuivent jusque chez eux? Comment gérer les patients et leurs familles? Comment faire la part des choses entre l'empathie et la distance?
Concours.
Hippocrate, l'oreille interne, est une série en 5 épisodes. Écrite par Anna Buy et réalisée par Clément Nouguier. À retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes de podcast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.